I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Chers auditeurices, ici Naomi Titi. Avant d'écouter votre épisode des couilles sur la table, laissez-moi vous présenter le cycle ciné Contre-champ, lutte collective, film féministe de la Cinémathèque du documentaire de la BPI, notre sponsor. La programmation, en partenariat avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, propose des classiques restaurés, tels que « Sois belle et tais-toi » de Delphine Seyrig, qui, moi, m'a passionnée, mais aussi des réalisations plus récentes et internationales, comme « Le passage du col » de Marie Botois ou bien « Rebut » de Mayara Santana. Contre-champ, c'est plus de 50 ans d'histoire de la solidarité transnationale des mouvements féministes, à travers un patrimoine audiovisuel subversif et émancipateur. C'est aussi un parcours qui invite les spectatrices à questionner le discours dominant en utilisant le cinéma comme moteur d'engagement. Et si, comme moi, vous aimez le cinéma documentaire, ce cycle vous intéressera forcément. Rendez-vous du 19 avril au 4 juillet au cinéma du Centre Georges Pompidou à Paris. Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table.
Les couilles sur la table avec Virginie Despentes. Troisième partie. Dans cet épisode, on va discuter d'art et de politique, de féminisme, de littérature et de cinéma. Virginie Despentes est, je l'ai déjà dit, une grande écrivaine. Elle a parallèlement à son œuvre littéraire réalisé 4 films. Mais c'est aussi une immense lectrice. Elle est d'ailleurs depuis 3 ans membre de la prestigieuse Académie Goncourt qui décerne chaque année le prix du même nom. Avant de s'attaquer au cinéma, on commence par la littérature. Je voulais savoir si ses convictions féministes avaient changé ses goûts de lectrice et sa façon de lire. Et pour commencer, je lui demande comment est-ce qu'on peut continuer à adorer des romans dont on sait qu'ils sont très misogynes, par exemple ceux en France de Michel Houellebecq ou aux États-Unis d'écrivains comme Charles Bukowski ou Bret Easton Ellis.
Là, dans la liste, je vais retenir Bukowski. Et je sais que c'est une contradiction. Et un des trucs que j'aimerais vachement réussir à faire, c'est une pièce de théâtre où je ferais dialoguer Simone de Beauvoir et Anne Bukowski, qui sont deux grandes influences pour moi. Parce que c'est difficile de les faire dialoguer à plein de niveaux. Parce que peut-être qu'au moment où on est lecteur, on n'est pas forcément prioritairement lecteur féministe. Non, au moment où on est lecteur, on est vraiment récepteur. Et on peut être récepteur, c'est comme être effectivement en exercice d'empathie. Mais donc on peut entendre des voix, ça dépend du genre de lecteur qu'on est, je crois pas être un lecteur, je cherche pas des gens qui me ressemblent quand je vais chercher les livres des autres. J'aime bien les gens qui me font me sentir moins seule, mais j'aime bien aussi qu'on m'emmène justement dans des endroits où j'irai pas toute seule mentalement et dans des espaces qui sont pas les miens, dans le temps, dans les lieux et dans la pensée. Donc on peut être féministe. Et au moment où on est lectrice, par exemple, lire le dernier Bret Easton Ellis sans avoir une syncope nerveuse, on peut le faire. Parce qu'on peut ouvrir le livre de Bret Easton Ellis sans se dire « je veux que tu me dises ce que je pense. Je veux bien que tu me dises autre chose. En fait, je veux bien que tu me parles d'autre chose. » Après, il y a un autre problème pour quelqu'un qui est né comme moi en 69, c'est qu'on ne peut pas être lectrice et vouloir que des textes féministes parce qu'il n'y aura pas assez de textes. En fait, il faudra toujours passer par... De ma génération, la plupart d'entre nous, on est passé par un corpus de textes extrêmement masculin et sélectionné parce que masculin, blanc aussi majoritairement, mais masculin essentiellement. Et du coup, on apprend à être un lecteur sans sexe. Ça veut dire au moment où on lit, je me sens même pas ni féministe ni même femme quand je lis en fait.
Oui, mais est-ce que c'est pas justement, moi aussi j'ai grandi avec, j'adore la littérature et j'ai grandi avec un corpus, je crois que j'ai lu beaucoup d'hommes en fait déjà, et puis des textes qui sont misogynes souvent, etc. Donc c'est comme si j'avais...
Et même les textes féminins qui sont restés, la plupart d'entre eux sont misogynes, enfin ont un caractère misogyne super fort. Moi j'aime vachement Colette, il y a des moments de Colette où t'es atterré, j'adore Marguerite Duras, il y a des moments où Duras elle t'atterre, j'adore Sagan, il y a des moments où c'est-à-dire, c'est même pas, ça joue même pas en termes de les écrivains femmes vont être un meilleur soutien que même d'ailleurs Simone de Beauvoir par moment. tu sais pas quoi lui dire. Enfin, donc t'es presque obligé, si t'es lecteur, à un moment donné, de... Aujourd'hui, c'est peut-être moins vrai.
Mais justement, mais parce qu'on est beaucoup à se demander, à se dire, mais en fait, vu qu'on a grandi avec tout ça, comme lectrice, on sait, on connaît leur point de vue, en fait. On connaît comment ils voient les femmes, on connaît ces personnages féminins super stéréotypés, on est dans leur tête, on comprend comment le narrateur masculin, le point de vue qu'il a, etc. Et en fait, on peut avoir envie d'autre chose, là, vraiment, et de se dire, en fait, vu tous les livres qu'il y a à lire, je choisis, moi, de plus lire Bukowski, je choisis de plus lire tout ça, parce qu'en fait, il y a d'autres choses à lire plus intéressantes et peut-être qui moi, vont me sentir mieux aussi.
Là, je vais être un peu... Je pense que ce serait dommage de se passer de la lecture de Bukowski, quand même. Malgré tous les problèmes que ça peut poser comme féministe, parce qu'il y a dans cette attitude virile, il y a quelque chose d'attirant aussi, et à laquelle on a droit aussi. Ça veut dire, ce qui peut être intéressant aussi, c'est s'exposer à des textes avec lesquels on n'est pas d'accord, mais aussi parfois pour attraper des attitudes qui ne devraient pas être les nôtres. Par exemple, Bukowski, c'est un son, c'est un style, mais c'est vraiment une attitude. Et cette attitude, ce serait dommage de rien aller y chercher, sous prétexte que c'est pas un féministe traditionnel.
Donc pour se les réapproprier aussi.
Pour se les réapproprier aussi, oui. Et c'est important aussi, je crois, d'être capable d'écouter des paroles avec lesquelles on n'est pas d'accord sans que ça soit une offense insupportable. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui on n'est pas d'accord, pas seulement hommes-femmes, mais en général. Par exemple, le féminisme de Catherine McKinnon, il me désespère, mais c'est intéressant de lire le féminisme.
Je rappelle juste Catherine McKinnon, qui est donc une féministe américaine qui a contribué à faire reconnaître le harcèlement sexuel aux États-Unis. Mais oui, je l'ai relue aussi cet été, et en fait, on finit dans un état de désespoir total
c'est
à la
super
lire.
C'est super pas jouissif.
Parce qu'elle dit, enfin, en gros, il n'y a aucun salut dans... Enfin, il n'est pas possible, par exemple, d'être hétérosexuel, par exemple, avec elle. Et la sexualité est forcément... marqué par la domination et par la violence. Et du coup, on sort de ça abattu.
Et en même temps, Leandra Dworkin, par exemple, qui est vraiment la théoricienne de la pénétration, c'est le viol, il y a quelque chose d'intéressant. Et pourtant, vraiment, ça, c'est pas mon féminisme, mais c'est intéressant de se confronter à des paroles qui sont pas les nôtres. Ça me paraît super... ne serait-ce que pour être sûr que tu changes pas d'avis... aussi parfois pour préciser ta position, mais aussi parfois juste pour... Parce que c'est ça, l'art en général, quand même, c'est agrandir ton horizon et comprendre, oui, il y a des gens qui réfléchissent totalement différemment. Et c'est intéressant. Enfin, c'est un des grands intérêts de la lecture, parce que s'il n'y a aucun problème à se confronter à la pensée de quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, il n'y a pas de mise en danger réelle. C'est juste un exercice. Et c'est, il me semble, un des trucs les plus intéressants de la littérature. Un des premiers romans qui m'a marqué quand j'étais petite, c'était Autant n'emporte le vent. J'avais 12 ans et j'étais parfaitement consciente en le lisant très vite dans le livre que j'étais en train de lire un livre vraiment de droite, mal. Mais à la fois, c'est une expérience de lecture. J'avais jamais entendu parler quelqu'un de ce point de vue-là et c'était passionnant. D'imaginer qu'il y a des gens qui peuvent être pour l'esclavagisme. Quand t'as 12 ans, il y avait quelque chose de... Et c'est ça aussi la littérature quand même, être capable d'imaginer que et oui, il y a des gens qui pensent comme ça. Donc je pense que quand t'es lecteur, tu peux pas aller chercher que des gens qui vont te conforter dans ce que tu penses déjà. Et donc tu dois prendre le risque d'être confronté à des pensées qui te mettent mal à l'aise ou à des définitions du monde, des visions du monde qui te déstabilisent, parce que c'est ça l'idée.
Mais à la fois, dans King Kong Theory, vous aviez aussi écrit, et je pense pas du tout que ce soit inconciliable d'ailleurs, mais vous écriviez « Je suis verte de rage qu'en tant que fille qui intéresse peu les hommes, on cherche sans cesse à me faire savoir que je devrais même pas être là, alors qu'on a toujours existé, même s'il n'était pas question de nous dans des romans d'hommes qui n'imaginent que des femmes avec qui ils voudraient coucher. » C'est vrai que moi, comme femme, j'ai envie de lire des romans où il y a des femmes qui sortent du marché de la bonne meuf.
Ouais, ouais.
C'est très important.
On en a besoin aussi. Non, puis quand je dis tout ça, je dis pas qu'il me paraît bien que tous les artistes qui rentrent dans l'histoire soient des artistes hommes. Il me semble qu'un peu de pluralité nous ferait le plus grand bien à tous. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble dangereux d'écarter de ton champ de vision et de connaissance tout ce qui ne coïncide pas exactement avec ce que tu penses. Parce que sinon, ça ne vaut plus trop le coup d'aller lire, si c'est pour toujours aller lire quelque chose. J'adore Zadie Smith, mais si je lis que Zadie Smith, je m'appauvris au sens où, en général, je me sens très en accord avec elle. Elle me met en danger sur rien. White, de... Bret Easton Ellis, ça me met pas en danger, mais ça j'avance plus, puisque je suis pas d'accord. Ça veut pas dire que je préfère Ellis Smith à Bret Easton Ellis, attention, mais je pense que lire les deux me paraît bien.
Oui, parce que la question s'est aussi posée pour le cinéma, par exemple, quand on décide de faire des rétrospectives.
Ça, c'est différent, parce que le cinéma, comme il faut une permission, écrire quand même, même Violette Leduc peut écrire. Parce que Violette Leduc, qui est un écrivain qui écrit en même temps que Jean Genet, qui a eu beaucoup plus de problèmes pour publier que Jean Genet, et qui est, à mon avis, un écrivain vraiment de grand talent, peut-être un peu méconnu par rapport à son talent, en raison de son genre. Mais Violette Leduc, elle n'a pas besoin, pour remplir ses cahiers, de demander l'autorisation à qui que ce soit, alors que pour faire un film, il faut toujours l'autorisation d'un producteur qui lui-même a besoin d'autorisation de financier. Donc là, le cinéma, pour moi, ce n'est pas du tout comparable à la littérature, parce que là, effectivement, la littérature... les grands auteurs qui rentrent dans l'histoire sont des auteurs hommes, pour des raisons qu'on connaît. Mais il y a des auteurs femmes. En cinéma, il y a effectivement une vraie pénurie de réalisatrices femmes, parce que c'est tellement d'argent, tellement de pouvoir, que c'est très difficile pour des femmes de réaliser des films. Il y en a, hein. Mais effectivement, il y a d'autres problèmes économiques et politiques qui ne se posent pas exactement de la même façon. Il y a des points où ça se recoupe, mais il y a des points où c'est très particulier, le cinéma.
Donc du coup, en tant que
comme le jeu vidéo. Ah, le jeu vidéo, j'ai l'impression que les concepteurs sont énormément des mecs, parce que c'est là où ils pouvaient aller en ce moment. Donc effectivement, c'est pas la même... Et là, il faut une autorisation pour mettre en financement ton projet. Et là, effectivement, être une femme est un vrai problème.
Du coup, en tant que spectatrice, par exemple, de cinéma, c'est pareil. Moi, il y a plein de films que j'ai plus envie d'aller voir, ou des rétrospectives, la rétrospective Polanski et compagnie. Je me dis, on en a assez, en fait. Est-ce qu'on n'est pas en droit de demander autre chose, d'autres films, de mettre en valeur d'autres créateurs, d'autres cinéastes, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre à la poubelle, mais...
D'un point de vue féministe, quasiment, du cinéma, on peut tout mettre à la poubelle. Parce que c'est quasiment une industrie qui s'est créée, pas pour ça, mais qui immédiatement a servi à créer le genre tel qu'on le connaît dans ce qu'il y a de dérangeant. Et c'est une industrie dont on peut faire l'analyse quasiment entièrement... dans sa propagande du genre. Qu'est-ce qu'elle a inventé comme genre de femme? Qu'est-ce qu'elle a inventé pour les hommes? Et elle a vraiment inventé quelque chose, et ça a vraiment été une propagande qui nous est tous rentrée dans le cerveau, et qui ensuite a infusé dans la publicité, et qui a influencé tous les autres médias, non? Parce que ça a été vraiment un média dominant pendant 40 ans, 50 ans. Et je crois qu'on peut lui reprocher tout, le cinéma, si, d'un point de vue du genre, mais après, est-ce qu'on peut voir les choses uniques? Elle ne se juge pas uniquement du point de vue du genre, mais du point de vue du genre et de la race. Le cinéma, c'est vraiment le triomphe du mal absolu.
Vous regardez avec des
exceptions,
beaucoup de films.
Avec de vraies exceptions, évidemment, mais dans son étude majeure, c'est vraiment la construction de l'homme blanc, le cinéma. On peut...
Encore plus que la littérature.
Beaucoup plus que la littérature. Il n'y a pas de Monique Wittig du cinéma. Parce que si Monique Wittig arrive dans le cinéma, elle a fait un film, elle ne peut pas faire un film comme ses grands livres, parce qu'on ne va pas lui donner l'argent. Et quand bien même on lui aurait donné l'argent... Elle n'aura pas les rétrospectives, elle n'aura pas les salles de cinéma, elle n'aura pas les articles. Parce que tout ça, ça a vraiment été, et ça a été totalement inconscient, mais quand même cohérent. C'est vraiment un travail de propagande du genre. Moi, j'ai un peu un problème dans les problèmes qu'on se pose en ce moment sur le cinéma, parce que c'est comme si on essayait de se dire on va régler deux, trois petits trucs dans le cinéma et ça ira mieux. Mais non, là, c'est vraiment le cinéma, c'est vraiment l'industrie. Ça repose là-dessus. Ça a pratiquement tout de suite reposé sur qu'est-ce qu'on va inventer comme femme, qu'est-ce qu'on va inventer comme homme, et comment est-ce qu'on va séparer les deux, en leur expliquant qu'ils peuvent pas lutter ensemble. Ils peuvent lutter que l'un contre l'autre, et ils seront jamais... Parce que c'est vraiment... Tu vois, ce truc du test Bechdel...
Donc je rappelle, on en a parfois parlé dans l'émission, mais le test de Bechdel, c'est très simple, c'est trois questions en sortant d'un film. Est-ce qu'il y a deux personnages féminins qui ont un prénom et un nom? Et est-ce qu'elles parlent ensemble? Et est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme?
Bon, le troisième point... C'est pratiquement toujours non.
Elle parle jamais d'autre chose que d'un homme.
C'est super rare. Maintenant, ça arrive petit à petit. On a des scènes où des femmes parlent d'autre chose que... Mais sinon, si tu prends même les séries, même... Je l'avais fait Game of Thrones, par exemple. Il y a quelques épisodes qui passent le test Bechdel. Il y en a très peu, sur quand même 7 saisons, 8 saisons. Et avec vachement de personnages féminins. Mais des moments où elles parlent, où deux personnages féminins sont ensemble et elles font avancer l'action sans être en train de parler d'un... leur fils, leur mari, qu'est-ce qu'elles vont faire par rapport à un homme, c'est super rare. Et ça, tu te dis, si ce test-là, il se passe pas, c'est qu'il y a quand même vraiment un problème dans cette industrie, un problème profond, parce que c'est le B.A.B.A., non, de pouvoir faire avancer ces histoires toute seule.
Du coup, qu'est-ce que le féminisme a fait à la spectatrice de cinéma que vous êtes? Est-ce que vous regardez encore des films?
Moi, je regarde vachement de séries, et je trouve que, moi, j'ai l'impression que ça s'arrange dans les séries, en tout cas... J'ai l'impression de voir plus de réalisatrices, plus de scénaristes. J'ai l'impression de voir des personnages féminins de plus de 50 ans, de plus en plus souvent. De voir des femmes qui sont pas des garages à bites, parce que sinon dans le cinéma c'est toujours c'est soit une mère, soit quelqu'un qu'on va désirer d'un point de vue hétérosexuel, mâle, mais j'ai l'impression que de plus en plus je vois des personnages apparaître et des types de situations apparaître dans les séries. Mais sinon, en tant que féministe, le cinéma peut pas donner grand chose pour moi, à part des films des fois qui... L'Ange de la Vengeance de Ferrat, qui est pour moi un film qui, je sais pas, j'ai dû le voir 65 fois, qui te fait toujours du bien, t'as l'impression que ça lui a échappé un peu, parce que c'est pas vraiment un... Et des fois, ouais, comme ça, il y a des films qui ont... A Gun for Jennifer, un jour ça a existé, mais il y en a, là, pour le coup, féministe, film féministe, t'en as 15-20. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais pas beaucoup.
Dans votre littérature, il y a aussi des personnages féminins qui échappent aux stéréotypes, qui échappent au marché de la bonne meuf, etc. Mais à la fois, il y a un autre truc qui m'a frappé en le relisant, c'est que la façon dont les corps féminins sont décrits, souvent dans votre œuvre, c'est très brutal. Et en fait, ça emprunte beaucoup au male gaze, enfin, au regard masculin. Vous décrivez... Après, c'est dans le regard des personnages masculins qui regardent les femmes, mais c'est toujours... Il y avait ces bourrelets qui dépassaient, elle était ridée, elle n'avait pas bien vieilli... elle avait une beauté de garce fine, elle avait l'air d'une meuf qui voulait se faire attraper. Enfin, ça m'a frappé ce paradoxe-là, en fait.
Jusqu'à très tard, j'ai toujours été entourée de mecs. C'est-à-dire, vraiment, il y a une bascule qui se fait, et c'est une question de devenir lesbienne, mais pas seulement, c'est aussi une question d'âge. Mais jusqu'à ce que j'ai 35 ans, j'ai essentiellement... j'ai toujours eu des copines, mais j'ai essentiellement des amis hommes. Donc je suis très familière de... comment ils regardent les femmes à la télé ou dans une fête. Ou... Et à la fois, ça m'exaspère, je crois, et à la fois, il y a une tendresse, parce que c'est des trucs de tes potes idiots qui regardent les filles. Et des fois, ça te blesse. Pas en tant que femme, mais en tant que quand c'est un pote à toi, des fois, tu trouves ça tellement nul que ça te blesse d'être ami avec ce con. Enfin, il y a un truc, puis tu trouves ça dommage que tu l'aimes bien. Enfin, des fois, c'est comme ça, quoi. Mais d'autres fois, c'est juste, tu trouves ça idiot, mais rigolo. Il y a un truc comme ça, et aussi
oui,
un truc ça, ça
a été aussi un truc très efficace, quoi.
Mais ça aussi vraiment été une attitude des femmes de ma génération très répandue, de parce que tu savais tellement pas quoi faire, tu trouvais ça rigolo.
De critiquer le corps des autres femmes, d'en parler en même dans les mêmes termes.
Et ça te semblait, qu'est-ce que tu voyais le côté rigolo, parce que mais aussi parce que sinon tu fais quoi, tu vas être toute seule toute ta vie. À parler, à avoir aucun pote. Enfin, toi, il y avait un truc comme ça. Et ça, je pense que c'est très caractéristique d'une certaine. De défis comme moi. Je ne suis pas la seule, quoi, qui ont décidé de trouver ça rigolo, quand ce n'était pas forcément rigolo.
Oui, parce que ce regard-là qui est porté par eux, quand nous, on l'intériorise, ça veut dire que le regard qu'on porte sur son propre corps et tout. Enfin, vous n'avez jamais été tendre en plus avec vous-même quand vous vous décrivez et tout ça. Vous écrivez des trucs comme je me suis toujours sentie moche. En fait, le regard, le male gaze, là, le regard, moi j'appelle ça le regard du garçon bouché, quoi. C'est, on découpe les filles en morceaux, on dit ouais, ses cuisses, ça va, son ventre, non, sa gueule, elle est comme ci, comme ça, etc. Et en fait, de pas pouvoir en avoir un autre, quoi, que ce regard-là sur son propre corps, sur le corps de ses copines, des femmes et tout, c'est dur aussi.
Ouais, c'est super dur. De toute façon, mon analyse à moi, c'est que c'est pas facile d'être une fille. En tout cas, de ma génération, j'ai trouvé ça pas facile, ça c'est clair. Parce que c'est comme se faufiler tout le temps entre. Des obstacles, parfois trop rapprochés pour qu'on puisse se faufiler entre, quoi, donc se les prendre de pleine face. Moi, je me rends pas compte parce que j'ai pas lu mes romans récemment, mais j'imagine que dans ce que je fais, dans les romans que j'écris, c'est j'essaie de rendre compte à chaque fois comme un polaroid du moment où je l'écris, non ? Et c'est vrai que si je rencontre du regard des garçons qui m'entouraient, qui étaient souvent, ouais, c'était un regard de garçon bouché. Et parfois, ça avait son charme parce que des fois, ça vient avec de l'humour. Et après, j'imagine que ce que j'essaie de faire, par contre, en dehors de ce regard-là, c'est des personnages comme les filles de Baise-moi ou comme d'essayer de les décrire quand même, de les faire exister avec empathie et tendresse. Oui, mais c'est pas ça tellement qui compte, avec respect, pas au sens respect de t'es pas une pute, mais au sens respect de t'es quelqu'un. Et même si tu corresponds pas, effectivement, t'es pas... une jolie jeune fille, tu vaux totalement le coup et tu peux totalement mener une histoire, quoi. Ouais.
Vous faites partie du jury du prix Goncourt.
Ouais.
Donc vous lisez énormément de productions contemporaines. Quel regard vous avez sur la production littéraire contemporaine ? Est-ce que vous trouvez que c'est toujours une littérature blanche de la bourgeoisie masculine ? Je me rappelle d'une étude faite en 2015 sur les romans de la rentrée littéraire. qui montrait que plus des trois quarts des personnages avaient une profession artistique ou intellectuelle et étaient cadres sup. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez que cette littérature, elle est toujours très marquée par la classe et par le genre?
Déjà, en étant jurée, je vais lire beaucoup de littérature contemporaine française. C'est particulier, enfin, c'est pas... Là, on est chez nous, quoi. Et je trouve ça moins vrai, ça dépend des années, en fait. Cette année, par exemple, je trouve ça un petit peu moins vrai, parce qu'il y a plusieurs romans magistraux qui ne sont pas écrits par des blanches, par exemple, ni par des hommes. Mais, si, j'imagine, si on fait quand même la statistique à la fin, il y a une représentation totalement anormale d'hommes blancs de catégorie plus. Il est rarement question de loyer dans les romans qu'on lit, mais ça arrive quand même. J'ai plutôt l'impression que les éditeurs vont dans un sens... C'est-à-dire petit à petit, les éditeurs, parce que c'est eux qui choisissent quel texte vont voir le jour ou pas. J'ai l'impression que petit à petit, les éditeurs prennent conscience de ce qu'il y a eu une crise économique en Europe, qu'il y a quelque chose comme le féminisme, qu'il y a quelques personnes qui s'intéressent au postcolonialisme. Enfin, petit à petit, ça arrive jusque Saint-Germain... Et on sent, tout doucement, Là, le problème, c'est que j'ai oublié le nom de certaines romancières que j'ai lues cette année, parce qu'il y en a plusieurs jeunes romancières qui sont vachement, vachement intéressantes. Ouais. Enfin, qui ont fait des bouquins, et là, pour le coup, qui ne sont pas des romans sur un mec de la pub dans le 8e... Qui veut baiser des gamines de 12 ans. Ouais. Et là, c'est vraiment dur parce qu'il ne peut pas, elles sont trop jeunes. Enfin, il y a quelque chose d'autre quand même là qui. Après, ce qui est compliqué, c'est le faire lire aux autres, je trouve. Et c'est la réception critique aussi.
Est-ce que pour vous, c'est un critère?
Pour un auteur, c'est un critère. C'est-à-dire, si on n'a aucun soutien des médias, aucun soutien des libraires et qu'on en vend 4, c'est un problème quand t'es auteur. C'est-à-dire, c'est pas un problème pour moi comme lectrice, puisque moi, de toute façon, je les reçois chez moi. C'est un problème. Si tu lis un bouquin que tu trouves vachement bien, t'as envie qu'il soit le plus soutenu possible pour que d'autres gens aient l'opportunité de le lire et de voir si ça leur plaît aussi. Et probablement, si ça t'a vraiment beaucoup plu, ça va leur plaire aussi. Donc t'as envie qu'il y ait quand même un relais, notamment médiatique, parce que sur les 300-400 romans de la rentrée, il faut quand même aiguiller les lecteurs et même les libraires vers les romans qui nous ont le plus plu. Donc oui, pour moi c'est important, pas pour moi personnellement, mais pour moi l'idée que je me fais de... Pas de la littérature, mais de l'édition, juste de qu'est-ce qu'on peut faire exister comme texte, parce que ça me paraît vraiment important de faire exister des textes justement qui proviennent pas toujours des mêmes sujets, qui énoncent pas toujours les mêmes réalités. Et donc, c'est super important qu'ils aient une reconnaissance. Parce que c'est tout à fait possible d'avoir un succès spontané, sans la presse, et en étant chez un petit éditeur, mais c'est super rare. C'est quand même plus facile si tu as 4 articles.
Enfin, du coup, vous, votre rôle, il est immense. Parce que si le roman se retrouve sur la première liste de sélection du Goncourt et tout, forcément, on va en parler. Quoi,
on va en parler plus, ouais. Pas forcément. Un peu, en tout cas, c'est. Mais je ne suis pas toute seule. C'est le propre du jury, non? Sinon, parce que donc je peux pas faire exactement ce que je veux comme je veux. C'est l'idée. Peut-être qu'à un moment donné, je ne vais pas faire un truc toute seule, mais parce que. Mais en tout cas, je me sens une responsabilité, parce que c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup. J'en lis beaucoup que j'aurais pas lu.
Spontanément.
Et qui m'intéressent vachement. Je trouve pas qu'on ait un problème de. Il y a trop de textes, peut-être. Il y a beaucoup de textes, je comprends même pas pourquoi les gens les écrivent. Moi, personnellement, quand je les lis, je me dis que je comprends même pas pourquoi t'as pas fait plutôt tondre ton gazon, emmener tes enfants à la piscine ou faire autre chose, quoi. Mais il y en a d'autres, ouais. Il y a des textes qui me semblent. Là, Léonora Miano fait partie des auteurs, il me semble. Parce qu'on parle de ses romans, mais on n'en parle pas au niveau où elle est, j'ai l'impression.
Dit dans une interview, je me souviens que vous ne compreniez pas pourquoi elle n'avait pas le statut de grand écrivain français direct,
Nobel direct, Miano. Enfin, pour moi, c'est vraiment là, à ce niveau de ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle est en train de déployer, est vraiment extraordinaire. Mais même Fatou Diome, là, je lisais son roman, et elle, je l'ai toujours lu. Enfin, je l'ai lu depuis longtemps. Elle est géniale. Et elle est à un niveau de maturité, de maîtrise de ce qu'elle fait, totalement... Comment dire, inouï, c'est peut-être un peu... C'est pas le mot, mais c'est un plaisir de lecture incroyable, parce qu'elle est vraiment à un niveau, et je trouve qu'elle n'est pas au niveau auquel elle devrait être.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la Table et des Couilles sur la Table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la Table.
Une question toute bête technique, mais vous en recevez énormément. Oui, vous avez une règle, vous en lisez 50 pages, après vous passez au suivant, vous regardez d'abord qui l'a écrit.
Là, ça a commencé la cinquième année, je crois que je le fais. Donc, ouais, je commence à avoir. Je lis aussi au bout de 30 pages, je m'ennuie mortellement, je l'arrête. Et après, si tous mes collègues, enfin pas tous, mais si plusieurs collègues reviennent en disant c'est un chef-d'œuvre, je le reprends. Mais sinon, non. Au début, je les lisais tous entiers. La première année, c'est un.
Les 400, quand t'aimes
pas. Ouais, quand, non, pas les 400, mais tous ceux que je commençais, je les lisais jusqu'au bout, au cas où. Mais au bout d'un moment, tu dis, je peux pas. Si au bout de 30 pages, je suis déjà en. J'ai l'impression d'être à l'école. Il y a peu de chances pour que ça s'arrange, en fait, dans les 60 pages qui suivent. Donc maintenant, et si ça me plaît, par contre, non, je le lis jusqu'au bout, mais je peux le lire très vite. Je peux le lire dans la journée, ce qui indique que j'ai lu comme ça venait, quoi. Mais moi, c'est une lecture que j'aime bien. J'aime bien lire en binge reading, quoi.
Ça me plaît.
Il y a un truc qui me...
Et dans, je reviens encore à King Kong Theory, parce que vraiment, ce texte, on peut le relire encore et encore, on trouve des nouvelles choses dedans, où vous parliez du corps des écrivains. Et de comment le corps des écrivains mecs, on n'en entendait jamais parler, parce que de toute façon, aussi, ça c'est un truc de la masculinité, les hommes n'ont pas de corps.
Ils n'ont qu'un désir, ouais.
Et que si Houellebecq avait été une femme, on lui aurait expliqué de toutes les façons pourquoi il n'arrivait pas à baiser, qu'avec la gueule qu'il avait, etc., alors que personne ne lui avait jamais rien dit. Et qu'à talent équivalent, si ça avait été une femme ou un homme, ça n'aurait pas été le même traitement. Ne pas aimer les femmes chez un homme, c'est une attitude, alors que ne pas aimer les hommes chez une femme, c'est une pathologie. C'est toujours vrai?
C'est moins vrai qu'au moment où je l'ai écrit, il me semble, parce que justement, de la MeToo, là, tu as vraiment changé quelque chose. Parce que MeToo, il y a eu une agressivité pour la première fois, pas trop en France, mais à l'international, non, il y a eu des moments de vraie agressivité contre des mecs qu'on avait jamais, enfin, que moi, je n'avais jamais vu, venant de féministes. Ou comme les manifestations, il y a peu de temps, à Mexico, où on a vu vraiment des féministes vénères taper sur des mecs dans le métro parce que c'est des mecs. Et on ne l'avait jamais vu, en fait. Là, on voit ce que c'est que... Un événement performatif qui change ta mentalité. Et donc, c'est moins vrai, mais ça reste... Il y a deux choses. Ce qui reste vrai, c'est que pour les femmes, on est censé toujours être dans une position où on aime les hommes, quoi qu'il arrive. On n'entend jamais une meuf dire « j'ai avorté, c'était un mec, je veux pas accoucher d'un mec », alors que ce serait logique, mais on n'entend toujours pas. On n'entend jamais une meuf dire « à l'écho, c'était un mec, je le garde pas, je mets pas ça au monde, quoi ». Donc ça reste vrai que les femmes, on doit toujours aimer les hommes, on les aime, parce que bon, bah, ils sont comme ça, ils sont là, c'est génial, ils sont là. Mais par contre, ce qui reste tout à fait vrai, c'est que tu peux pas avoir un Houellebecq féminin, ça c'est clair. Déjà parce qu'on ne reconnaîtra jamais en France à une femme l'intelligence qu'on peut reconnaître à Houellebecq. Et de deux, parce qu'effectivement, si elle arrive avec un physique aussi difficile que celui de Houellebecq, on ne parlera que de ça, en fait. C'est clair.
Voire on ne la publiera pas, peut-être qu'on ne l'invitera pas sur les plateaux télé, peut-être que... Enfin, vous soulignez aussi l'obligation qu'il y a quand même toujours un peu pimpante.
On peut la publier. On publie plein de femmes d'une cinquantaine d'années, puis on n'en parle pas. C'est ça qu'on fait avec les femmes. Non, on continue à les publier, mais simplement on n'en parle plus. Bon, après, si elles s'accrochent et qu'à 70 ans, elles sont encore là, elles auront peut-être un petit papier, mais sinon, c'est plus ce qu'on fait, non, avec les femmes. On continue à les publier, mais on s'intéresse au premier roman de très jeune femme. Puis il y a Annie Ernaux à l'autre bout, parce qu'elle est restée là. On se dit, bon, au bout d'un moment, on va être obligé de reconnaître qu'Annie Ernaux est un grand écrivain. On va pas, non, au bout d'un l'âge qu'elle a, on va commencer à le dire. Mais sinon, entre les deux, t'as l'impression qu'entre 35 et 70 ans, pour la plupart des meufs, c'est comme elles disparaissent du. Elles sont plus intéressantes pour les. Pas pour les lecteurs, mais pour les gens qui rendent compte des livres.
Comme le cinéma.
Moins grave, dans le cinéma, c'est pire. Chaque fois, chaque question, dans le cinéma, c'est pire. Dans le cinéma, c'est pire, parce que là, par contre, on produit pas les films des femmes de 50 ans. On en produit quelques-uns, bien évidemment, j'exagère. Mais on en produit pratiquement. On produit les premiers films, les deuxièmes films, mais après, c'est très difficile pour une réalisatrice de continuer, parce qu'elle a fini d'être jeune, quoi.
Et pour les actrices, c'est pareil.
Bon, ouais, c'est encore pire, ouais.
À 50 ans, c'est vraiment terminé.
C'est encore pire, parce qu'encore réalisatrice, tu peux essayer de trouver un projet que tu vas faufiler, que tu vas réussir à quand même, alors que actrice, t'attends. À moins de devenir toi-même réalisatrice ou productrice, mais sinon t'attends, et une fois que t'attends, elles disparaissent toutes. Bon, et encore une fois, j'exagère, pas toutes, mais presque toutes.
Est-ce que vous avez envie de continuer à faire des films ?
Bon, on aura compris que non. On aura compris que j'aime bien l'idée de travailler en groupe, je préférerais essayer d'autres formes. Je trouve que le cinéma, c'est trop... c'est pas le fait de faire le film, ça c'est une expérience, mais c'est le fait de... Il y a trop de permissions à demander. Pour l'instant, ça me décourage. Sauf si demain, je trouve une idée tellement imparable que je ne vois pas comment ne pas la faire. Mais sinon, je n'ai pas envie d'aller faire lire à un producteur, faire lire à des chaînes, faire lire à un distributeur qui vont tous être des mecs idiots de 60 et quelques, qui ne comprennent rien, qui sont des vrais violeurs, au moins dans leur culture, mais qui ne le reconnaissent pas du tout. Qui en ce moment sont agacés parce qu'ils ont eu plein d'emmerdes avec Weinstein. Et donc, à chaque fois, c'est comme si tu devais soumettre ton projet à des gens, c'est pas pour eux, de toute façon, que tu le fais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est même pas contre eux, d'ailleurs. C'est vraiment pour d'autres spectateurs et spectatrices, qui sont pas vous, mais c'est quand même vous qui allez le rendre possible ou pas. Et donc, c'est des discussions qui détruisent le projet avant même de le mettre en route, quoi, quelque part. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Pour l'instant, le cinéma, je vois ça foutu. Je pense que ça évolue vachement vite et ce sera bien. Mais pour l'instant, il y a trop des mecs partout et c'est vraiment, ils y peuvent rien parce qu'ils n'ont pas été formés à autre chose. Ils sont formés dans ce milieu qui est insupportable au niveau du genre, au niveau de la classe et au niveau de la race. Donc, c'est vraiment compliqué de faire. C'est possible, mais c'est vraiment compliqué de faire exister quelque chose d'un peu intéressant dans ce. Et on le voit quand on regarde les films. Parfois, il y a un film génial, mais c'est rare.
Donc en fait, l'art là qui est bien vivant, dans lequel on peut aller et tout, c'est la littérature ?
Je pense, ouais. La littérature, la musique, il y a des trucs qui existent aussi. Parce que pareil, t'as moins besoin d'autorisation pour faire ta musique. Après, pour la faire exister, c'est une autre histoire. Mais pour faire ta musique, t'as pas besoin d'autorisation comme pour faire ton premier long métrage. Et c'est pareil pour... Après, je connais moins le théâtre. Peut-être que le théâtre, c'est bien, mais j'ai l'impression que c'est pareil, il y a des mecs partout. Et j'ai rien contre les mecs, mais du moment où il y a des mecs partout, il n'y a rien de possible, quoi. Tu peux pas... Parce que tous, à leur niveau, vont te répondre, moi, j'ai pas de problème, mais je préfère quand même que les comédiennes aient 20 ans, mais je préfère quand même pas pour ce qui est le public qui comprendra pas ça, mais ça va pas les intéresser. Mais, et après, on va refaire encore la même chose une 750e fois.
Sur les mêmes problèmes, sur les mêmes réalités problèmes. Sociales.
Et avec les mêmes mecs qui ravent toujours
dans
la
les familles, dans des maisons de campagne, dans des maisons bourgeoises.
Toujours. Ouais. Toujours, ouais. Des femmes qui feraient mieux de pas quitter leur mari, parce que sinon, elles s'en mordront les doigts. On recommence. Et tu te retrouves toujours avec des mecs tout en haut. Dans les milieux où il y a que des mecs, c'est comme ça. Tu te trouves toujours avec des mecs qui ont tous les grands avantages et qui sont quand même capables d'expliquer qu'ils préféreraient ne pas réfléchir au genre quand ils s'intéressent à l'art.
Bah, c'est la question que j'allais vous poser. C'est ce truc-là, c'est que j'entends aussi les artistes, les créateurs, les créatrices, etc. qui disent « mais je suis pas là ». Pour faire de l'art moral. C'est insupportable de faire de l'art moral, c'est chiant. pourquoi est-ce que vous demandez ça? Moi, je suis dans ma totale liberté d'artiste et je fais donc la question, c'est celle de la responsabilité, en fait, en tant qu'artiste.
C'est pas seulement ça, parce que, par exemple, c'est vrai que c'est insupportable de faire de l'art moral. Et par exemple, si quelqu'un veut faire un cinéma, en Kéchiche, veut faire un cinéma ultra macho, et sur sa libido, moi, je trouve ça génial. Mon problème, c'est pourquoi il n'y a pas de l'équivalent en face d'un Kéchiche meuf. Parce que si une fois que tout existe, génial, parce que c'est vrai qu'on n'a pas. C'est de l'art, c'est pas de l'hygiène.
Politique morale, on n'est pas là
pour nettoyer le cerveau des gens et qu'ils ressortent en étant plus
clean. Pour faire de la propagande ou pour faire...
On peut le faire, mais c'est pas forcément, effectivement. Et on peut aussi faire de l'art vraiment intéressant sur des trucs pas glorieux de soi-même. On n'est pas obligé de parler que des questions sur lesquelles on est bien, on est bon, on est juste. On peut aussi parler des trucs, on est foireux, on ne sait pas où on en est, on est confus, on est asocial, on est psychopathe. Mais ce qui est problématique, c'est quand c'est toujours, toujours, toujours les mêmes obsessions qui peuvent s'exprimer, et jamais celles en face. C'est-à-dire, ce qui est problématique, c'est certainement pas Kéchiche, c'est l'absence en face de Kéchiche, d'une Kéchichette. Et c'est impossible d'être une Kéchiche femme. On ne donnera pas autant d'argent à quelqu'un de caractériel femme. Impossible. Donc elle ne pourra pas faire le même cinéma. Et c'est là qu'il y a un... Parce qu'on a besoin de l'imaginaire de la psychopathe meuf en face. Enfin, moi, c'est ce dont j'ai besoin, c'est cette espèce... Et pas un équilibre féminin-masculin, mais un équilibre ta connerie, ma connerie. Et moi, après, en tant que spectatrice, comme ça, je peux aller... c'est le festival de la connerie de tout le monde, là, ça devient intéressant. Si c'est que toujours, toujours, toujours le mec s'habite et le cul de la meuf, bah, là, ouais, effectivement, ça devient problématique.
Et est-ce que vous, ces questions-là, vous voulez
même
poser
si
comme...
Même si c'est pas un bon exemple, parce qu'au moins, il est pas blanc, mais...
Oui, mais blanc, bon, mais en fait, c'est le problème du male gaze, quoi.
C'est que... Mais c'est le male gaze. Et moi, j'aime bien le cinéma, en fait, parce que, soyons clairs, je suis né en 69, toute ma culture, c'est une culture de mec. Donc je la comprends, je comprends ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui me gêne, c'est ouais, pourquoi il n'y a pas un Tarantino meuf. Et c'est pas une question de talent, on le sait, c'est vraiment une question de possibilité de à qui est-ce qu'on donne l'argent, quoi. Il y a une Catherine Bigelow. Et il y a 60 réalisateurs mecs en face d'elle. C'est ce...
Ce déséquilibre-là,
c'est...
en
ouais,
fait.
C'est là que moi, ça me... Parce que sinon, je veux bien... Moi, de l'art qui pose problème, ça me... Je suis preneuse.
Ouais, c'est ce qu'on disait au
début. Je veux
bien
être mal à l'aise.
On est d'accord pour aller voir des œuvres avec lesquelles on n'est pas d'accord, etc. Mais...
Je ne sais pas quoi faire. Tu vois, Salaud, les 120 jours de Sodome, je ne sais pas quoi en faire. Ça m'intéresse quand même.
Ouais, mais on pourrait aussi imaginer des œuvres d'art, comme vous disiez, pour la pornographie, en fait.
D'autres. Non, par contre, une pluralité, ça change tout.
Qui décrivent des relations hétérosexuelles heureuses, où les deux jouissent génialement, où les femmes n'ont pas des corps stéréotypés, où ça rouvre vraiment des imaginaires et des possibilités, ça peut aussi être ça. Et donc je me demande...
Et petit à petit, ça se fait, le dernier film de Céline Sciamma ou le dernier film de Reto Kaslutowski, là, pour revenir à un cinéma plus positif,
donc, effectivement, une fille facile,
c'est une fille facile et le portrait de la jeune fille en feu. Elles changent toutes les deux de façon très subtile, mais vraiment nette. Elles changent les curseurs. Là, pour le coup, elles les ont fait bouger chacune dans leur film. Donc, c'est possible. Et là, ça devient intéressant. Et ça me semble intéressant aussi que des gens qui sont pas féministes ni femmes les voient justement pour être éventuellement transformés au courant, mal à l'aise, ou réagir. Parce que c'est toute l'idée, normalement, d'être curieux au niveau de l'art. Mais effectivement, il faut une pluralité, non seulement des émissions, des gens qui émettent, des types de narration, de fiction qu'on lance, mais aussi il faut une pluralité, normalement, des critiques. Il faut des podcasts, il faut des articles, il faut des gens capables de décoder les œuvres aussi. Donc il faut des pluralités. En fait, il faut des gens différents partout, non?
Ouais, tous les échelons.
À tous les échelons. Il n'y a vraiment que comme ça qu'on peut... Ce qui ne veut pas dire qu'une femme noire, féministe, marxiste, on ne saura pas ce qu'elle pensera pour autant des œuvres. On sera peut-être très surpris de sa lecture du dernier Tarantino. On ne peut pas présumer, mais n'empêche que ça changera tout si jamais on élargissait un petit peu le panel à tous les niveaux.
Bon, et la dernière question, c'est pour vous en fait, c'est en tant que créatrice, que artiste. Est-ce que ce sont des questions que vous vous posez pour vos œuvres?
Non. J'essaie de pas me les poser pendant, par exemple, pendant la rédaction d'un roman, effectivement, j'essaie de pas me... mais une fois que je me relis, je me demande quand même ce que j'ai fait. Enfin, parce qu'il y a vraiment deux étapes différentes. Il y a deux étapes très distinctes. Il y a une étape où tu es en train de construire le livre. Et dans cette étape-là, j'essaie de pas être moraliste, justement, de pas chercher à produire un effet particulier à travers ce que j'écris. C'est-à-dire, j'essaie vraiment, en fait, quelque part, d'être le plus possible dans une sincérité, bizarrement, dans une... voir ce que je vois et rendre compte de ce que je ressens le plus librement possible. Après, il y a un moment où tu te relis, tu coupes, tu rallonges, tu t'expliques. Et dans ce moment-là aussi, je me pose la question de savoir quel, sur l'échiquier politique, par exemple, quel genre de roman j'ai écrit. Mais pas dans un premier temps, parce que... Parce qu'effectivement, si jamais il y a une narration gênante... Patrice, pour moi, c'est gênant, par exemple, d'en faire un subutex, d'arriver sur ce personnage. Je sais ce que je fais quand je le fais, mais c'est un moment un peu... Je suis un peu... Mais Xavier aussi, qui a une tirade raciste super drôle au début de Vernon Subutex 1.
Et le personnage du facho aussi. Il y a un personnage, facho. Et en fait, dans Vernon Subutex... Mais oui, c'est ça qui est tellement troublant comme lectrice quand on lit ce roman-là et tout, c'est que... En plus, ce sont que des focalisations internes des personnages. Donc on rentre vraiment dans leur tête, dans leur peau et tout. Et on se dit, bah voilà, ça y est, j'ai passé 2 heures dans la peau d'un facho, quoi. C'est, ou d'un raciste, ou d'un mec qui tape sa femme, etc. Et voilà, je me demandais comment, quel sens ça avait, quoi, pour vous. Quelles questions vous vous posez quand vous relisez ça, quoi.
Quand je le relis, il y a des choses que je fais qui sont morales. Par exemple, Xavier, je vois que je prends un peu beaucoup de plaisir à développer sa connerie raciste dans le Monoprix. Je l'essaie de le couper le plus possible. Il y a des solos comme ça où je me dis, je te trouve un peu à l'aise. On va peut-être un peu ramasser ça, être un peu moins, hein, faire montre d'un peu moins de dextérité. Mais au moment où je l'écris, ouais, je me dis, c'est, si je dois parler de ce que je vois ça. Et je le vois comme ça. Je peux pas. Et ce serait pas intéressant, il me semble que ce serait moins intéressant si. Disons que ce serait plus du roman, ce serait un essai. Si je devais à un moment donné expliquer ce que j'en pense et comment je pense ce qui est bien et ce qui est juste, on serait plus dans un roman, on serait dans un essai. Et dans le roman, ce qui est bien, c'est aussi justement tout ce qui... Je sais pas quoi faire de ça. Et c'est bien il me semble que c'est bien de l'accueillir en tant que romancière au moment où t'écris. Et après, c'est bien, ouais, d'essayer de mixer, de peaufiner un tout petit peu pour pas aller trop dans des trucs problématiques.
Vous retrouverez la suite et la fin de cet entretien dans le 4e épisode diffusé dès la semaine prochaine. Là, il sera question d'hétérosexualité.
C'est déjà compliqué d'être féministe et travailler, parce que t'es tout le temps en train de faire des concessions que t'as pas à faire. C'est compliqué d'être féministe et sortir de chez toi, alors en plus féministe et vivre avec un mec, ouais, c'est compliqué, c'est vrai.
Mais aussi de ce que ça fait de ne pas avoir eu d'enfant, du désastre écologique en cours et de plein d'autres choses encore. Les couilles sur la table est un podcast de Binge Audio. Et si ça vous a plu, vous pouvez conseiller à celles et ceux qui n'écoutent pas encore de le faire. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Quentin Bresson a enregistré et réalisé cet épisode. Camille Regache s'est occupée de le mettre en ligne. Et moi, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la Table et des Couilles sur la Table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la Table.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.